France Culture, 6h-7h, les petits matins, tout de suite les titres de l'actualité.
Bonjour à tous. Il est comédien complètement novice en politique. Volodymyr Zelensky devient le nouveau président d'Ukraine. Il remporte la présidentielle avec une majorité écrasante face au sortant Petro Poroshenko. On y revient à 6h30 sur France Culture. En Macédoine, c'est le pro-européen Stevo Pandarovski qui arrive en tête de la présidentielle. Deuxième tour prévu le 5 mai. Déjà 290 morts et près de 500 blessés dimanche de Pâques sanglant au Sri Lanka. Plusieurs attentats ont été menés dans des églises et des hôtels de luxe. 8 explosions au total. Elles n'ont pas été revendiquées pour l'instant, mais 13 personnes ont d'ores et déjà été arrêtées. Raoula Atala habite à Colombo, la capitale.
Immediately, the government declared state of emergency.
Le gouvernement a immédiatement déclaré l'état d'urgence et instauré un couvre-feu. Les leaders religieux de toutes les confessions, le président et le premier ministre, ont demandé à la population de rester calme et unie pour essayer de trouver les responsables de ces attentats qui veulent déstabiliser le pays.
Témoignage en longueur et analyse dans le journal de 6h30 et on apprend ce matin qu'une bombe artisanale a été désactivée tard hier soir près de l'aéroport de Colombo. Au moins 11 soldats maliens ont été tués hier près de la frontière mauritanienne. Des djihadistes présumés ont attaqué un poste de l'armée. En Colombie, c'est un glissement de terrain qui sème la mort. Au moins 19 personnes ont été tuées. Presque autant sont portées disparues dans une zone rurale du sud-ouest du pays. Le poids des mots. Une enquête est ouverte à Paris après des appels au suicide de policiers. Des suicidez-vous lancés aux forces de l'ordre samedi pendant la manifestation des Gilets jaunes dans la capitale, et ce alors que la police est touchée par une vague de suicides sans précédent depuis le début de l'année. 6h02 sur France Culture, le réveil culturel Toufik Hakem.
Le réveil culturel Toufik Hakem.
Bonjour tout le monde, merci de vous réveiller avec les petits matins de France Culture et le réveil culturel en ce jour férié. Vincent Abouchard à la réalisation, Claire Levasseur à la technique, Corinne Amar à la coordination et notre stagiaire Maëlle Ray se joignent à moi pour vous souhaiter de joyeuses Pâques. C'est bien sûr un lundi de Pâques bien particulier, une semaine après l'incendie de Notre-Dame de Paris, sinistre national et tragédie internationale en même temps. En attendant que la grande cathédrale ouvre à nouveau ses portes, je vous propose ce matin de faire un tour à Venise, en compagnie de l'écrivain et journaliste Jean-Paul Kaufmann, qui lui a décidé d'ouvrir les portes des églises fermées de la cité des Doges. Son livre « Venise à double tour » est publié par les éditions Équateur, et cette interview que vous allez écouter ce matin a été enregistrée quelques jours seulement avant l'incendie de Notre-Dame de Paris lors de son passage à Paris.
Le réveil culturel. Lundi, livre.
Venise à double tour, tel est donc le titre de votre dernier ouvrage, paru aux éditions Équateur. Dans Venise, il y a combien ? 140 églises, mais une cinquantaine d'entre elles sont, pour diverses raisons, fermées ou inaccessibles au public. Pendant 5 mois, Jean-Paul Kaufmann, pendant 5 mois installé à Venise avec votre épouse, vous faites tout pour vous faire ouvrir les portes de ces églises fermées. Cette quête obsessionnelle prend parfois des allures d'une enquête policière, un rebondissement. Vous allez à la recherche des institutions propriétaires de ces églises closes. Vous sollicitez les responsables pour les convaincre de vous laisser visiter ces lieux, parfois avec succès, mais pas toujours. On va en parler bien sûr, mais ce livre n'est pas le guide du Venise secret, c'est aussi le portrait de cette ville que vous aimez bien, hein, de votre relation à la cité des Doges qui a inspiré tant d'écrivains. D'ailleurs, ce livre aurait pu être tout simplement un livre pour marquer un anniversaire, puisque vous avez découvert Venise il y a 50 ans, même si vous précisez que vous ne savez pas si c'était en 68 ou en 69.
Oui, la nuance est d'importance, j'arrive pas à... Enfin, ce que je sais, c'est que j'ai vu lors de ce premier séjour, et c'est le point de départ d'ailleurs de ce livre, livre, un tableau entrevu dans une sorte de clair-obscur. Et au fond, ce livre-là, c'est la recherche. Je suis à la recherche de ce souvenir.
De cette sensation même, oui, de cette odeur.
Oui. Oui, c'est ça, c'est le point de départ. Et bon, et à mesure que je venais à Venise, bon, ça devenait une chose importante. Et puis, bon, je connais à peu près toutes les églises ouvertes de Venise. Je me suis dit, bon, ce tableau ne peut que se trouver dans une église fermée. Donc, voilà, vous avez tout à fait raison de dire que c'est mené. Enfin, j'ai essayé, en tout cas, de mener cela comme une enquête politique. Avec ses rebondissements, ses impasses.
Très souvent drôle, il faut le dire.
Vous me faites un compliment, là, parce que je pense que, oui, c'est important, une forme de, en tout cas, de gaieté, qui, j'espère, traverse ce livre. Parce que, en même temps, oui, Venise, c'est la ville de l'euphorie. Plus que d'ailleurs de la gaieté. L'euphorie et la gaieté, c'est deux choses différentes. C'est grisant, Venise. Et peut-être, au bout d'un certain temps, il y a des gens qui ils sont obligés de partir parce que c'est trop fort. Hein. Ils ont du mal à supporter cette pression euphorique. Je pense que c'est cela. Donc voilà, c'est le point de départ de ce livre. Alors, les églises fermées. Il a fallu d'abord les recenser. Combien y en a-t-il? À peu près 45 à 50. Ça change, hein. Uh-huh. Mais bon, en gros, on est dans ce chiffre-là. Pourquoi sont-elles fermées? Ça aussi, ça a été important, hein, comme question. Et surtout,
qu'est-ce qu'on y trouve dedans?
Ce qu'on y trouve dedans et qui détient les clés?
Bien sûr.
Alors, voilà, il y a un personnage.
Et à chaque fois, il y a des histoires vraiment abracadabrantes, on peut le dire.
C'est pour ça aussi que je dis, c'est un récit, ce n'est pas un roman. Ce que je raconte là, c'est ce qui s'est passé pendant ces mois de poursuite et d'attente. Et ce personnage, le grand vicaire, qui détient les clés de ces églises, il n'est pas le seul, mais enfin, bon, c'est le principal gardien des clés. J'ai finalement pu le rencontrer, ça n'a pas été une mince affaire, et il m'a fait des promesses, aucun problème, je vais vous faire visiter l'ensemble d'églises, je le rappelais, puis finalement, il m'a fait faux bond, je lui en veux un peu, mais bon, finalement j'ai pu me faire ouvrir vingtaine d'églises, quoi.
Donc, vous venez de le dire, c'est aussi une manière de parler de Venise, hein. Venise, il y a eu tellement d'écrits sur Venise. Venise a été tellement décrite. Mais comment faire un portrait d'une ville aux 30 millions de touristes par an et aux 100 clochers? Je pense que ça reste quand même la ville la plus visitée du monde après Paris. Est-ce que c'est vraiment pour retrouver cette sensation du tableau entreaperçu lors de ce premier voyage, où c'est une idée géniale d'un écrivain en disant, puisque tout le monde connaît Venise, puisque tout le monde a parlé de Venise, a écrit sur Venise, et ben moi je vais aller là où personne n'est allé, et pour cause, parce que les portes sont closes.
Vous avez raison, oui, il y a cela, c'était une façon, les églises fermées, c'était une façon, en effet, de parler d'une Venise hors cadre, hors des circuits. Hein, quand on est à Venise, il faut essayer de se garder de l'axe Rialto Place Saint-Marc, parce qu'il y a plein de lieux à Venise où il y a personne. Et donc il y a cela. Et puis bon, vous avez raison aussi de dire que c'est une forme de prétexte, c'est un prétexte. Comme je dis là, c'est un MacGuffin. Les admirateurs d'Hitchcock savent ce que c'est. Le MacGuffin, c'est le prétexte, c'est la raison officielle et la mallette que le héros, on va essayer de lui la prendre. Mais en fait, ce qui compte, c'est la poursuite. Hein, c'est le suspense. Et la mallette, en fait, on s'en moque un peu. Mais malgré tout, ces églises fermées, c'était pour moi, en effet, une manière de parler d'abord d'une... les églises fermées, les églises ouvertes, il y a une très grande différence. Les églises fermées, il y a une intériorité secrète, une qualité de silence que vous n'avez pas, évidemment, dans les églises ouvertes. Les églises ouvertes, c'est la lumière, c'est le luxe, c'est l'exhibition. Tandis que les églises fermées, c'est des lieux intacts. Parce que il faut quand même se rendre compte d'une chose. Quand vous faites ouvrir la première fois une église fermée depuis des années, eh bien, c'est une sensation absolument unique. Vous avez la clé là qui grince dans la serrure, et puis peu à peu les deux battants s'ouvrent, et puis vous recevez véritablement en pleine figure le silence, l'odeur, une odeur tout à fait particulière, et puis l'obscurité. Et c'est vraiment ça, on a l'impression que cette intériorité du sanctuaire finalement explose, se libère, et vous recevez ça en pleine figure. Donc vous avez un moment, il faut reprendre ses esprits, vous avez littéralement le souffle coupé, et peu à peu, eh bien, cette lumière qui s'installe va apaiser peu à peu ce lieu qui est fermé, délaissé, abandonné depuis si longtemps. Et en ce lundi de Pâques, bon, on est dans une forme aussi là de résurrection, hein, de résurrection.
Parole de croyant, Jean-Paul Kaufmann.
Bah, je ne sais pas. En tout cas,
et on ne le saura jamais en lisant votre livre Venise à double tour, c'est ça qui fait aussi la force de ce livre. Et puis aussi, il y a toutes ces déambulations, parce que vous aimez Venise, hein.
Ah oui, oui.
C'est suffisamment rare aujourd'hui que quelqu'un puisse dire j'aime cette ville, j'aime encore cette ville pour être noté. Et dans votre déambulation, vous n'êtes pas seul. Il y a quelques illustres écrivains qui vous accompagnent, quelques philosophes aussi. Oui, Lacan, Sartre, par exemple.
Oui, oui, Lacan, Sartre. Et bah, on connaît le fameux mot de Paul Morand, les canaux de Venise sont noirs comme de l'encre. Et cette encre, c'est tous ceux qui ont écrit sur Venise. Et Morand dit, c'est le devoir aussi de tout homme qui écrit de tremper à son tour sa plume dans cette encre-là. Donc oui, je le dis souvent, c'est une sorte de défi quand même, c'est un sujet dangereux, dangereux, périlleux. Mais et parce que comment s'y prendre avec Venise? Et je cite notamment je trouve que c'est très intelligent ce qu'elle a dit, Marie McCarthy, qui a écrit un très beau livre sur Venise. Elle dit, il faut pas faire son malin avec Venise. Hein, il faut pas être paradoxal, il faut pas être sophistiqué, il faut accepter la beauté de Venise telle qu'elle est. Il faut se laisser porter. Et bon, bah, j'ai essayé aussi de me conformer à ce conseil. Et en même temps, encore une fois, bon, c'est moi, je m'étais promis de jamais écrire sur Venise, qui est une ville trop évidente, alors que moi j'aime les lieux plutôt flottants, incertains, vides. Et au fond, alors que Venise apparemment c'est tout le contraire. Eh bien non, je pense que Venise la naissance de Venise, eh bien c'est né du rien, hein, des gens qui se réfugient sur des dos sablonneux, hein, qui ont fui la terre ferme avec toutes ces invasions là, et puis qui peu à peu vont constituer cette ville qui est composée quand même, il faut le dire, aujourd'hui, la Venise historique de 118 îlots là qui ont été colmatés, concrétisés ensemble.
Jean-Paul Kaufmann, avant de devenir l'excellent guide de Venise aujourd'hui, vous avez eu quelques guides illustres, et parmi eux, Hugo Pratt. Hugo Pratt, puisque vous avez eu le privilège en tant que journaliste d'arpenter Venise avec lui en 1983. On écoute juste un extrait d'une archive où Hugo Pratt parlait de Venise.
Tant que moi je suis vénitien, c'est l'année... cette nécessité de la faire. vers cette Venise. Mais quelle Venise? Il y a une Venise cachée. Il y a cette Venise que nous avons parlé pas mal de fois. C'est une Venise un peu, si vous voulez, invention. C'est la Venise évasion. C'est la Venise... C'est la Venise culture, c'est la Venise fable, c'est la Venise légende, tradition, ésotérique, onirique. Bon, et après, c'est la réponse, si vous voulez, à une Venise seulement de touristique, à une Venise bureaucratique, à une Venise qui a des tels problèmes que les Vénitiens même, beaucoup de Vénitiens même, ils sont partis de la ville, ils ont émigré, ils sont en Amérique, ils sont de l'autre côté. Ici, c'est une ville de personnes très anciennes, ou de gosses, parce que la jeunesse n'a pas de grandes possibilités de développer quelque chose ici à Venise. Et Venise, c'est la ville de l'assicuration générale, des banques, et de la capitainerie du port qui me met les bateaux qui sont comme grands comme des murs là dehors de cette fenêtre. Alors, nous devons répondre à cette Venise. Nous devons répondre à cette Venise avec une Venise poétique, très belle, enchantée. La Venise, après tout, il a été tout le temps enchantée. L'enchantement des villes.
C'était en 1980, trois ans avant votre rencontre, Jean-Paul Kaufmann, avec Hugo Pratt, qu'on vient d'entendre parlant de Venise. Et d'ailleurs, vous le faites remarquer, dans Venise à double tour, il y a une grosse différence entre vous et Hugo Pratt. C'est que Hugo Pratt, quand il voit un mystère, eh ben, il se contente du mystère. Il n'essaye pas. Alors que vous, en tant qu'ancien journaliste, bah, vous essayez d'avoir toutes les clés, de comprendre, alors que lui, quand il voit un mystère, eh ben, il rajoute d'autres légendes, et vous le dites en citant le bon exemple, c'est-à-dire Fable de Venise.
Oui, oui. Mais alors, lui, justement, il dit, je me souviens un jour, ça a été un week-end hein, que j'ai passé avec lui à Venise, on passait du côté de Santa Anna, qui est une église quasiment, enfin, il y a un point de non-retour qui est atteint, et dans ce quartier, il disait, un secret est fait pour être gardé, il faut pas violer le secret, ces lieux invisible, caché, il faut qu'il le reste. Et lui, ce qui l'intéressait, c'était les choses que on peut voir, mais que les promeneurs, les touristes ne voient pas. Ce que Edgar Poe appelait l'invisibilité de l'évidence. Vous voyez, l'histoire de la lettre volée, on la cherche partout, et puis elle est en évidence, on la cherche, et puis elle est encadrée. Mais elle est tellement évidente qu'on ne la voit pas. Et lui, justement, c'est ça qui l'intéressait dans Venise. Et il avait raison. Mais en effet, notre démarche n'est pas la même.
Le réveil culturel. Toufik Hakem.
L'ère de la justice divine, c'est un extrait de l'oratorio de Nicola Antonio Porpora, un compositeur italien du XVIIIe siècle, dirigé ici par Thibaut Noali en 2017. Et nous sommes avec Jean-Paul Kaufmann ce matin, qui dans son dernier livre « Venise à double tour » paru aux éditions Équateur, nous entraîne dans un Venise hors des sentiers battus, celui des églises fermées, condamnées ou qui n'ouvrent qu'à certaines occasions. Alors, pourquoi sont-elles fermées? Quels trésors peuvent-elles contenir? En arpentant les ruelles de la cité des Doges, Jean-Paul Kaufmann, ce n'est pas Dieu que vous cherchez, hein?
En tout cas, une présence. Et c'est peut-être cela que détiennent ces églises fermées. Je dis à un moment la présence de l'absence. Il y a, c'est paradoxal, mais les églises ouvertes, il y a pas cela. Il y a un secret, il y a quelque chose.
Non, mais c'est pas l'amateur d'art éclairé que vous êtes par ailleurs, Jean-Paul Kaufmann.
Oh non, pas éclairé, amateur.
Qui vous a poussé à aller voir quel trésor pouvait peut-être contenir ces églises fermées, condamnées ou du moins pas du tout accessible au public et aux touristes.
Bah, et vous avez parlé tout à l'heure le journaliste qui veut à tout prix voir les choses interdites ou prohibées. Il y a de cela, en effet. Mais on est tous un peu comme cela. On veut voir. C'est ça le désir aussi, hein. Et une fois qu'il est atteint, il y a un sentiment de presque d'inachevé, de frustration. Hein. Ce qui est atteint est détruit. Je ne sais plus quel écrivain disait cela. Donc, il y a cela et ce livre aussi, c'est quand même une façon. Je veux pas dire que j'en suis. J'en suis pas à l'heure des bilans, mais c'est une façon aussi de faire le point à Venise, parce que je ne pense pas qu'il y ait. Il n'y a pas. Pour moi, c'est la seule ville où l'histoire nous saisisse à ce point pour nous relier à notre propre passé. Hein, bon, il y a. Et voilà. Alors, pour moi, en effet, c'est passé, ça passait par les églises, parce que, comme je le raconte, tout est parti d'une église de mon enfance, où je m'ennuyais parfois pendant les offices, et en même temps, mon imagination vagabondait, et c'est là où j'étais peut-être initié aussi cette pompe catholique, les cinq sens qui sont mis à contribution, l'orgue, l'encens, enfin, donc il y a une sorte d'éveil, une forme d'éducation que j'ai connue au départ dans ces églises. Là, et moi, à chaque fois que je vais quelque part, j'ai envie, dans n'importe quelle ville, n'importe quel village, je vais aller voir l'église pour vérifier peut-être aussi cette qualité de silence. Et puis, la plupart du temps, d'ailleurs, et de plus en plus en France, elles sont fermées. C'est tout un sport pour se les faire ouvrir. Donc, il y a une forme de vérification. Et j'ai pensé quand même que Venise rassemblait tout ça, cristallisait tout ce que je cherchais là depuis
il y a peut-être une autre raison, Jean-Paul Kaufmann, à ceux qui vous connaîtraient pas, Jean-Paul Kaufmann, par exemple, aux jeunes qui n'étaient pas encore nés dans les années 80, quand vous exerciez le métier de journaliste, il faut quand même rappeler qu'en mai 1985, vous avez été enlevé à Beyrouth avec le sociologue et chercheur Michel Seurat, et vous avez été détenu par le Hezbollah pendant 3 ans, puisque vous ne serez libéré qu'en 1988. Ce qui fait dire, par exemple, à la critique littéraire de Télérama, Nathalie Crome, que l'expérience de l'enfermement à laquelle vous avez été confronté a une relation évidente avec cette envie d'ouvrir les portes de ces églises fermées de Venise. Il sera dit que l'ancien détenu déteste les endroits clos et prohibés.
Oui, c'est vrai.
Écrit-elle tout en saluant votre livre. Mais c'est vrai que c'est vrai.
Bien entendu, je ne le conteste pas. C'est vrai que moi, j'ai un gros problème avec l'espace. J'ai besoin d'espace et quand j'ai été libéré, j'ai choisi les Landes. C'est là le seul endroit en France où il y a vraiment l'espace qui vous est offert.
Elle vous poursuit cette histoire parce que même là, à Venise, votre femme vous rappelle que vous avez tout intérêt à rappeler cet épisode douloureux de votre vie, que ça pourrait vous ouvrir les portes, vous qui vouliez justement ouvrir des portes closes.
Oui, c'est vrai. Bon, mais il n'y a pas que ça. Bon, je fais allusion, en effet, là, nommément à cette histoire de qui a duré 3 années. Mais vous voyez, moi, je suis pas enfermé dans ces églises, hein, et je veux pas essayer d'en sortir. Et là, il y a une très grosse différence, c'est que ces églises, je me les fais ouvrir de l'extérieur, en homme libre. Voilà, ça, la différence est quand même importante. Et alors évidemment, tout prisonnier, enfin quand il n'est pas enchaîné, il regarde à travers le trou de la serrure, hein, pour voir ce qu'il y a derrière. Moi, je faisais le contraire. C'était de l'extérieur que je regardais le trou de la serrure. D'ailleurs, j'apercevais parfois des choses assez extraordinaires. Il y a des églises qui ne se sont jamais ouvertes pour moi et que j'ai pu entrevoir dans une sorte de clair-obscur. Et j'ai pas décrit cela dans ce livre, comme je n'ai pas décrit les 19 ou 20 églises que j'ai pu me faire ouvrir. Mais oui, et ça, c'est un moment aussi que j'aurais peut-être dû décrire, parce que c'est oui, il y a le voyeur là aussi. Je dis que j'ai pas peur qu'on me qualifie de voyeur, je l'assume totalement.
Venise à double tour, c'est aux éditions Équateur. Jean-Paul Kaufmann, pour terminer cet entretien, dans ce livre on apprend quelque chose d'assez commun, c'est-à-dire que vaut mieux éviter Venise pendant le carnaval, mais pendant Pâques, c'est bien Venise?
Oui, enfin c'est la période de vacances, c'est difficile hein, de donner une... il y a des dates où il y a toujours du monde à Venise. Vous avez dit tout à l'heure 30 millions de touristes, 53 000 Vénitiens, une espèce en voie de disparition. Moi je préconise peut-être une période de 15 novembre, 15 décembre, le mois de janvier, éviter surtout le carnaval, mais il y a toujours du monde, mais il y a des périodes un peu plus basses.
On se sent européen à Venise, enfin, puisqu'on parle d'Europe, on va beaucoup parler d'Europe.
Oui, c'est quand même le tourisme mondialisé, c'est une caricature, hein. Ouais. Et c'est ça aussi le paradoxe, c'est que c'est le règne du factice, de l'inauthentique, et en même temps la beauté de Venise n'en est absolument pas ternie. C'est ça aussi le miracle de Venise.
Jean-Paul Kaufmann, merci d'être passé ce matin.
C'est moi qui vous remercie.
Vous êtes sur France Culture, dans un instant les informations de 6h30, à suivre le journal des idées par Jacques Munier et les enjeux internationaux par Xavier Martinet.
France Culture, l'esprit d'ouverture.
10 minutes par semaine pour comprendre un échec. Guillaume Herner.
Super Fail, le magazine de l'erreur, parce que l'on a toujours au moins une bonne raison de se planter. Un échec analysé chaque semaine, Super Fail, c'est à podcaster tous les lundis, sauf si ça plante.
Super Fail, Guillaume Herner, en podcast et en podcast seulement sur franceculture.fr. Événement, Tintin revient sur France Culture dans le Temple du Soleil.
Si j'ai bien compris... Votre ami Tournesol a été enlevé.
En mettant à son poignet le bracelet de la momie de Raspar Capac, Tournesol a gravement offensé les derniers Incas. Cap sur le Pérou, enquête, course-poursuite, rite sacrificiel. Haddock et Tintin sauront-ils lever la malédiction?
Tournesol est à bord, capitaine. Je l'ai vu.
Le Temple du Soleil, une coproduction France Culture, Moulinsart et la Comédie Française, avec l'Orchestre National de France. Inédit, le feuilleton, cette semaine à 20h30 et dans un podcast exceptionnel sur franceculture.fr.
Je suis si heureux de vous retrouver. Mais dites-moi, que signifie cette sorte de mascarade?
Bonjour à tous. L'Ukraine se réveille avec un nouveau président et c'est un comique. Le comédien Volodymyr Zelensky l'emporte largement, très largement, après une campagne faite de blagues et de dérisions portraits dès le début de ce journal. Nous ferons le point aussi sur la situation au Sri Lanka. Des bombes ont explosé dans des églises en pleine messe de Pâques et des hôtels de luxe ont aussi été visés. Le bilan, toujours provisoire, est déjà très lourd, près de 300 morts. Et puis à suivre également dans ce journal, l'amertume des forces de l'ordre. Elles ont dû faire face à des appels au suicide pendant la manifestation des Gilets jaunes samedi à Paris. Une enquête est ouverte. D'humoriste à président de la République, Volodymyr Zelensky remporte la présidentielle en Ukraine. Le comique écrase le sortant Petro Poroshenko avec plus de 72% des voix. Et aussitôt élu, Nathanaël Charbonnier, Volodymyr Zelensky a fait ce qu'il sait faire, rire.
C'est avec la télévision que Zelensky s'est fait connaître et c'est par la télévision qu'il est devenu hier le nouveau président ukrainien.
3, 2, 1.
Volodymyr Zelensky, Vladimir en russe, comique de profession, acteur et pitre au sourire en coin, a pris la parole aussitôt élu pour remercier ses électeurs. Nous l'avons fait ensemble. Zelensky a commencé ses remerciements en rappelant son slogan de campagne. Ensuite, il a remercié sa famille, sa femme, ses équipes. Le moment est historique pour le nouveau président et pourtant tout semble hésitant. Zelensky lit un papier alors que des confettis tombent du ciel. Un discours d'une minute trente qui ressemble plus à une cérémonie des Césars qu'à un discours politique. L'ancien comique, aujourd'hui président, est toujours souriant, mais semble dépassé par le moment historique qui s'impose à lui. À 41 ans, après une campagne faite de blagues et de dérisions, Zelensky va maintenant se retrouver rapidement confronté à la réalité. Lors d'une mini-conférence de presse, il a expliqué qu'il voulait relancer le processus de paix impliquant la Russie et visiter l'Ukraine à la rencontre du pays. Un peu plus loin dans Kiev, Petro Poroshenko, le président sortant, est vaincu, prenait lui aussi la parole pour saluer la victoire du nouveau président ukrainien. Le passage de témoins se fera dans le mois à venir.
Nathanaël Charbonnier à Kiev pour France Culture. En Macédoine, on en est qu'au premier tour de la présidentielle. Le candidat pro-européen Stevo Pandarovski est donné en tête avec un peu plus de 40% des voix, juste devant la candidate de l'opposition. Un dimanche de Pâques sanglant au Sri Lanka. Une vague d'attentats a fait au moins 290 morts dans des églises et des hôtels de luxe. Près de 500 personnes sont blessées. En quelques heures, les bombes ont semé la mort en plusieurs endroits de l'île et cela ravive de douloureux souvenirs. Raoula Atalage est professeur d'université à Colombo, la capitale.
Le gouvernement a immédiatement déclaré l'état d'urgence et instauré un couvre-feu. Les leaders religieux de toutes les confessions, le président et le premier ministre, ont demandé à la population de rester calme et unie pour essayer de trouver les responsables de ces attentats qui veulent déstabiliser le pays. Même pendant les 30 ans de guerre civile, le Sri Lanka n'avait jamais connu de telles attaques simultanées en si peu de temps. Les gens pensaient que les choses avaient changé depuis la fin du conflit il y a 10 ans. Mais aujourd'hui, on se retrouve à nouveau plongé dans la même situation que pendant la guerre, quand il fallait être vigilant et faire toujours attention à ce qui se passait autour de nous. C'est très difficile à gérer.
13 personnes ont été arrêtées, 13 hommes, ils appartiennent tous au même groupe radical selon les premières informations, mais on ne sait pas encore quels sont leurs liens avec ces attaques, aucune revendication pour l'instant. Ce qui semble assez clair en revanche, Audrey Tison, c'est la cible de ces attaques, la communauté chrétienne du Sri Lanka.
Des chrétiens très minoritaires dans le pays. Seulement 7% de la population, une communauté réputée pacifiste. Pourtant, elle avait déjà été ciblée ces dernières années.
Depuis 2009, on assiste à la multiplication des actes contre cette communauté. Pas des actes de grande ampleur, mais des avanies quotidiennes.
Anthony Gros-Ponceau est enseignant-chercheur à Bordeaux. Il nous répond depuis l'Inde. D'après lui, tout se passe comme si on cherchait des boucs émissaires depuis la fin de la guerre avec les Tamouls. Les musulmans ont été plusieurs fois attaqués par des extrémistes bouddhistes. Cette fois, ce sont les chrétiens qui sont visés, peut-être parce que cette religion a des croyants dans différentes parties de la population.
Les Singhalais sont chrétiens, mais également les Tamouls. Donc les chrétiens sont les seules personnes à unifier en fait la communauté, à unifier les antagonismes antérieurs entre Singhalais et Tamouls. Je ne serais pas étonné que les attentats soient revendiqués par un groupe plus que le musulman, mais je ne voudrais pas faire non plus de la prospective.
Cette piste islamiste est en effet envisagée par les enquêteurs. Le groupe NTJ notamment préparait des attentats contre des églises, d'après les services de renseignement. D'autres pistes sont ouvertes, comme celle d'extrémistes bouddhistes qui chercheraient à semer la terreur dans le pays.
Audrey Tison. Une nouvelle attaque djihadiste au Mali. 11 soldats ont été tués hier près de la frontière mauritanienne. Il y a un mois, une autre attaque djihadiste contre un camp de l'armée à Dioura, dans le centre, avait déjà coûté la vie à près de 30 soldats maliens. La situation se tend au Soudan. Les responsables de la contestation suspendent les discussions avec les militaires. Ils appellent dans le même temps à intensifier les manifestations pour réclamer un pouvoir civil. On y revient dans le journal de 7 heures sur France Culture. La garde à vue de Carlos Ghosn touche à sa fin au Japon. À la clé pour l'ancien patron de Renault-Nissan, sûrement une nouvelle mise en examen pour détournement de fonds. Elle s'ajoute à la plainte déposée ce matin par Nissan, une plainte au pénal pour abus de confiance aggravé. Le sujet pourrait s'inviter dans les discussions entre le président Emmanuel Macron et le premier ministre japonais Shinzo Abe, attendu en France en fin de journée. Les mots ont provoqué l'indignation. Suicidez-vous, voilà ce qu'on a pu entendre dans la manifestation des Gilets jaunes samedi à Paris, comme un slogan lancé aux forces de l'ordre alors que la police est touchée par une vague de suicides sans précédent depuis le début de l'année. Une enquête est ouverte pour outrage à personne dépositaire de l'autorité publique. Christophe Rouget est secrétaire général adjoint du syndicat des cadres de la sécurité intérieure, le SCI-CFDT.
Nous réclamions cette enquête. Elle est nécessaire. Nous sommes dans un contexte de fatigue physique très lourd, lié à 23 semaines de conflit social. Nous sommes dans un contexte de fatigue morale, parce que nous faisons l'objet en permanence de critiques au quotidien. Notre travail est remis en cause sur la gestion du maintien de l'ordre. Donc cette enquête, elle était nécessaire dans un contexte d'une vague de suicides sans précédent dans la police nationale, qui touche depuis le début d'année tous nos collègues sur l'ensemble du territoire. Et je crois que cette enquête, elle devra permettre d'identifier ces individus qui étaient en réunion, ce qui est d'autant plus grave, de les sanctionner, mais qu'au-delà de cette sanction pénale, qui devra être forte, le plus important est de mettre nom sur des visages, sur l'abject, sur l'ignominie.
Christophe Rouget du syndicat des cadres de la sécurité intérieure. Après ce 23e samedi de mobilisation, le président doit faire ses annonces de sortie de crise cette semaine, jeudi à 18h normalement. Emmanuel Macron devrait confirmer les mesures qui ont fuité dans la presse la semaine dernière et donner un nouveau cap au quinquennat, Élodie Forêt.
Face aux journalistes réunis dans la salle des fêtes de l'Élysée, il y aura d'abord des propos liminaires dont le contenu reste secret. Le président à la primeur esquive un conseiller. Un président très attendu notamment par sa majorité. La semaine dernière, les annonces qui ont fuité sont apparues comme un catalogue de mesures, se désole une députée LREM. Jeudi, il faudra donc donner du sens, une cohérence politique. Voilà ce qu'on a déjà fait, voilà où sont nos priorités et comment nous allons changer de méthode. Redonner du sens donc et préciser les mesures sur la suppression de l'ENA par exemple, très critiquée ces derniers jours, alors qu'il ne s'agirait pas réellement d'une suppression mais plus d'une refonte, glisse un élu. Un discours qui sera suivi d'une séance de questions-réponses avec les journalistes, un exercice inédit pour Emmanuel Macron, le président désormais adepte du débat et de la consultation, qui pourrait aussi confirmer jeudi la tenue prochaine d'une conférence sociale et environnementale en plusieurs épisodes. Prolonger la séquence et égrener les réponses comme un remède à la déception.
Élodie Forêt. Malgré ces annonces, certains gilets jaunes ont prévu de ne rien lâcher. À Saint-Nazaire, ils sont une vingtaine à occuper illégalement les anciens locaux de Pôle emploi, rebaptisés la Maison du Peuple. Ils vont quitter les lieux demain, mais ce n'est pas la fin de la lutte. Bien au contraire, Ludovic est l'un des représentants de la Maison du Peuple.
On pensait être parti pour un sprint, en fait on s'aperçoit qu'on part pour un marathon. C'est un peu ça l'enjeu là maintenant, c'est qu'on arrive à se poser, à trouver un rythme qui nous permette de tenir plus longtemps, puis de retrouver des façons d'exister matériellement maintenant que cette Maison du Peuple va disparaître.
Et continuer pour faire quoi ?
Continuer pour essayer de continuer à dire haut et fort ce qu'on pense de tout ça, pour continuer à pas laisser Macron et sa clique faire ce qu'ils veulent tranquillement dans l'indifférence générale, continuer à être le poil à gratter, continuer à essayer de secouer un peu cette société pour que les gens se réveillent, ouvrent les yeux, aient envie de sortir de l'impuissance, envie de sortir de la déprime chacun pour soi, retrouver du collectif. Voilà, nous on a vécu ça et on sait que c'est de ça dont notre société a besoin et donc c'est ça qu'on va essayer de lui amener comme on peut.
Témoignage recueilli pour France Culture par Anne Patinec. Ça souffle sur la Corse du Sud, placée en vigilance orange pour vent fort. Ailleurs, le temps reste printanier, malgré pas mal de nuages et quelques averses du côté de la Nouvelle-Aquitaine et de l'Occitanie. Côté température, le thermomètre dépasse facilement les 20 degrés cet après-midi. 7h20 sur France Culture, le journal des idées. Bonjour Jacques Munier.
Bonjour Rosalie Lafarge.
La résurrection de Jésus-Christ que commémore la fête de Pâques est un moment fondamental de la théologie chrétienne.
Oui, dans un livre qui vient de paraître au Seuil sous le titre « Vie et destin de Jésus de Nazareth », Daniel Marguerat consacre un chapitre à cet épisode central, central à la fois dans le parcours du Messie et pour la postérité de son message. L'historien et bibliste revient sur le débat ouvert dès les premiers temps du christianisme, puis dans la recherche historique sur la réalité de cet événement dont il rappelle l'inscription dans une ancienne tradition du judaïsme, la foi en la résurrection des morts. Elle exprime la conviction que la justice de Dieu triomphera dans l'au-delà, même si dans l'histoire, mal et souffrance s'imposent. L'originalité de la résurrection de Jésus est d'avoir incarné cette foi et de l'avoir en quelque sorte attestée dans sa personne, apportant ainsi la preuve concrète de la vérité de son message sur le règne de Dieu ici et maintenant. En lisant de près les différents récits de cet événement, l'auteur souligne, malgré leurs divergences, l'élément commun de l'apparition du ressuscité. C'est le verbe « voir » qui renvoie à un phénomène de vision. Vision et songe sont considérés traditionnellement comme une médiation de la révélation divine. C'est pourquoi, après un temps d'abattement et de dispersion, de crainte de subir le même sort, disciples et apôtres se rassemblent à Jérusalem dès lors que l'annonce de la résurrection se répand. Ces phénomènes visionnaires ont reconstitué le groupe des amis de Jésus pour qui désormais la prétention du Nazaréen d'agir au nom de Dieu avait été validée. C'est ainsi que, également, que les récits de Pâques servent à légitimer les autorités reconnues dans les premières églises. Pierre, le premier témoin dans l'évangile de Luc, les apôtres ou Jacques, frère du Seigneur dans l'évangile apocryphe des Hébreux comme figure de légitimation du judéo-christianisme et chef de l'église de Jérusalem. Il s'agit donc aussi, ajoute Daniel Marguerat, d'ancrer l'évangélisation chrétienne qui débute aussitôt après Pâques. Le mandat missionnaire est délivré par le ressuscité. Et en retour, sa vie, ses faits et gestes, ses paroles acquièrent une résonance nouvelle. Les évangiles s'emploieront à les décrire, animés par la conviction de faire mémoire d'une existence et d'une action habitée par Dieu. Dans la dernière livraison de la revue Études, Daniel Marguerat pose la question de la recherche historique concernant la vie de Jésus. S'il faut renoncer à tracer une biographie précise, nous disposons de sources fiables et de mettre en relief deux traits principaux, sa pratique de guérison et son inscription. Dans le judaïsme. Aussi extraordinaire que cela puisse paraître, il a fallu attendre les années 1980 pour que les chercheurs réalisent que Jésus était juif à 100% et contreviennent à l'image caricaturale du judaïsme du 1er siècle, celle d'un rigorisme monolithique alors qu'il était riche d'une multiplicité de courants en discussion les uns avec les autres. Réinscrire l'enseignement de Jésus dans ce contexte lui donne une autre dimension, celle d'un débat non pas contre le judaïsme, mais à l'intérieur du judaïsme. C'est vrai pour son dédain affiché à l'égard des règles de pureté, essentielles pour le maintien de la sainteté du peuple élu, une conception néanmoins défensive et exclusive à laquelle le Christ oppose une conception inclusive. Le rapport à autrui n'est plus stigmatisé comme un risque potentiel de souillure, mais comme le lieu où le croyant est appelé à concrétiser sa pureté et sainteté. C'est vrai aussi de son audacieux télescopage du commandement d'amour dans sa version divine du Deutéronome « Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur », etc. et dans celle du Lévitique « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». L'amour d'autrui est élevé à la hauteur de l'amour dû à Dieu. La ressemblance avec Dieu permet à l'homme d'être par grâce ce que Dieu est par nature. C'est ainsi que Jacques Lebrun résume une part du message d'Angelus Silesius, un grand mystique du XVIIe siècle, lecteur assidu de Maître Eckhart, Jean Tolère, Jacob Boehme ou Jean de la Croix, auteur d'un recueil au titre évocateur, Le pèlerin chérubinique. Le livre de Jacques Lebrun est intitulé « Dieu, un pur rien ». en référence à la tradition paradoxale de la mystique rhénane qui emboîte le pas à la théologie négative, laquelle s'employait à définir Dieu par tout ce qu'il n'est pas pour aboutir au néant. Dieu, un pur rien, je cite Angelus Silesius, Dieu est un pur rien, plus tu veux le saisir, plus il t'échappe. De Leibniz ou Schopenhauer à Heidegger, Derrida et Lacan, Jacques Lebrun revient sur les lectures fécondes de cet auteur. Si je n'étais pas là, eh bien c'est simple, toi Dieu, en tant que Dieu existant, tu n'y serais pas non plus. Lacan a lu intensément Silesius, il apparente l'expérience mystique à celle de la psychanalyse, notamment par cette autre phase de la parole qui est la révélation. Et du coup, si Dieu n'existait pas, ou si Dieu n'existe pas, question lacanienne, est-ce que moi j'existe ? 6h45, pile poil, alors même où je le dis. Bonjour Xavier Martinet.
Un bel effort. Bonjour Jacques Meunier, bonjour à tous.
Alors, au sommaire des enjeux aujourd'hui, les enjeux internationaux, les résultats de la présidentielle en Ukraine.
Et oui, c'est donc bien l'acteur Volodymyr Zelensky qui sera le futur président de l'Ukraine. Il a battu franchement hier à 73% contre 24% le sortant Petro Poroshenko, l'ex-oligarque au pouvoir depuis la révolution de 2014, donc évincé au profit d'un comédien inexpérimenté qui prend la tête d'un pays en partie en guerre pour plus ou moins de stabilité. En tout cas, il a annoncé vouloir relancer le processus de paix. On voit ça avec vous, Alexandra Goujon, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être au téléphone. Vous êtes maître de conférence à l'Université de Bourgogne et à Sciences Po, spécialiste de l'Ukraine et Biélorussie. Donc, victoire d'un outsider qui ouvre aussi sur de nouvelles incertitudes. Il a promis pendant la campagne, Zelensky, de casser le système sans pour autant avoir de programme clair. Ce qui fait que ce score de 73% contre 24% et à 85% des bulletins dépouillés, c'est d'abord le succès d'une dynamique dégagiste ou une adhésion à Zelensky ?
Alors, on est plutôt, j'allais dire, dans un vote sanction, mais un vote sanction à l'égard du président actuel, Petro Poroshenko, qui va représenter l'élite politique qui s'est installée au pouvoir après l'indépendance, des professionnels de la politique qui sont pour la plupart, soit comme Petro Poroshenko, des hommes d'affaires ou qui ont des liens, on va dire, avec des clans oligarchiques et se sont constitués à partir du milieu des années du milieu des années 90.
Oui, parce qu'il y a donc... Je voulais dire, il y a d'un côté la progression de Zelensky, hein, qui était à 9% en décembre quand il s'est présenté, donc 73% là. Et puis de l'autre, Poroshenko, qui a quand même un peu progressé dans l'entre-deux-tours, puisqu'il était à 15% au premier tour.
Tout à fait, qui a un peu progressé, mais bon, qui a obtenu un peu moins de 10 points supplémentaires. C'est très fréquent en Ukraine, hein, que le président sortant soit impopulaire. C'est pas une nouveauté. Et d'ailleurs, certains de ses prédécesseurs ne se sont pas représentés justement du fait de leur impopularité. Lorsqu'on parle par contre de dégagisme, la petite particularité par rapport à ce qu'on peut observer dans un certain nombre d'autres démocraties, c'est que la démocratie ukrainienne est fragile, assez fragmentée. Le parti du président actuel n'est pas un vieux parti politique installé avec une base sociale importante. C'est un dégagisme qui se fait quand même dans une société où il y a déjà eu des formes, j'allais dire, d'autres dégagismes, oui. Mais cette fois-ci plutôt par des révolutions.
Et de ce point de vue-là, pour bien situer ce vote, est-ce que Poroshenko, est-ce qu'il avait un si mauvais bilan qu'on veuille le sortir donc au bout de 5 ans? Il y a plusieurs spécialistes qui disaient c'est un bon président de crise en un sens, puisqu'il a fait le sauvetage financier, l'assainissement bancaire, les accords de Minsk, bon, avec les aléas de leurs applications, mais également un accord d'association avec l'Union européenne. Finalement, un bilan avec certains points assez positifs tout de même.
Oui, tout à fait. Je pense que le bilan n'est pas totalement négatif. Par contre, il y a une mauvaise communication, j'allais dire, politique, et surtout sur ce bilan, j'allais dire, et des signes. Il faut savoir que des signes, j'allais dire, négatifs. Il faut savoir qu'en Ukraine, il y a un journalisme d'investigation qui met en avant très régulièrement les accointances entre le milieu politique et le milieu économique. On considère que Porochenko, c'est quelqu'un qui s'est enrichi pendant sa présidence. Tout cela a été mis en avant. On a vu aussi les phénomènes d'évasion fiscale avec les Panama Papers. Et assez récemment, il y a eu notamment un scandale d'une personnalité dans son entourage, voilà, qui aurait vendu des armes à la Russie. Donc en fait, il y a un certain nombre comme ça de scandales qui ont entaché cette présidence. Et n'oublions pas que la dernière révolution, c'est une révolution de la dignité, centrée sur le respect du citoyen, l'état de droit. Et en termes d'état de droit, on considère que Porochenko n'a pas fait assez. D'ailleurs, il s'est activé sur la question de la lutte contre la corruption et d'une cour anticorruption, vraiment sur la fin de sa présidence. Mais ça n'a pas suffi pour le faire remonter dans les sondages.
Oui, avec, comme vous disiez, également cette question de la mauvaise communication. Peut-être, on l'a vu lors du dernier débat, qui a eu lieu dans un stade vendredi, où Zelensky a quand même eu des attaques assez dures contre Porochenko, en lui disant, en somme, vous êtes l'homme le plus riche d'Ukraine dans un pays où tout le monde s'appauvrit.
Oui, tout à fait. Ça correspond vraiment à cet état d'esprit des citoyens ukrainiens. Et cela, c'est non seulement, j'allais dire, à Kiev, mais surtout au niveau local, dans les villages, dans les petites villes, en fait, comme ça, où il y a des formes de barons locaux qui sont indéboulonnables. Et donc, c'est quelque chose que les citoyens peuvent ressentir, ou en tous les cas, interpréter chacun à leur niveau.
Alors, vous diriez aujourd'hui, qui a voté, qui vote et qui votera encore, parce qu'il y aura les législatives à venir, Zelensky, on a dit qu'il a été ultra-majoritaire dans l'Est est 87% et le Sud 85%.
Oui, tout à fait. Bon, après, dans l'Ouest, là où, j'allais dire, il y avait plutôt un bastion pro-Porochenko, en raison notamment de son discours très patriotique, centré sur la foi, l'armée, la langue, hein, des valeurs, sur les valeurs nationales ukrainiennes, ce qui a, j'allais dire, attiré les électeurs du Sud et de l'Est, c'est le discours rassembleur de Zelensky, qui a toujours dit que le président, il a beaucoup joué là-dessus, y compris pendant le débat, que le président Porochenko avait voulu diviser, que lui, il voulait rassembler et justement essayer de faire en sorte de ne pas mettre l'accent sur un certain nombre de problèmes, comme le problème de la langue qui a beaucoup divisé. D'ailleurs, Zelensky, ce qui a pu lui être reproché, c'est que il passe de l'ukrainien au russe, il utilise ces deux langues, et c'est vrai qu'on est dans un pays qui est bilingue, malgré une politique, une volonté d'installer quand même l'ukrainien face, j'allais dire, à la langue russe, qui aujourd'hui représente un petit peu le pouvoir de, comme le dit Porochenko, c'est cet agresseur. Mais il faut savoir qu'en Ukraine, il y a une partie des gens qui, notamment, ont combattu et combattent dans le Donbass et qui parle russe, qui sont aussi russophones.
Oui, avec cette langue qui est donc un marqueur politique. Alors, on ne connaît pas son programme, on ne connaît pas trop qui le conseille, même s'il y aurait un ancien ministre des Finances, hein, Oleksandr Daniliouk, plutôt libertarien, plutôt anticorruption a priori. Mais surtout, est-ce qu'il y aura plus ou moins de stabilité avec lui? Je le disais, donc le cap des législatives va passer en novembre, sinon avant. Pour l'instant, une assemblée qui ne lui est pas acquise. Et puis, c'est cette ambition de relancer le processus de paix avec la Russie, à quoi ça pourrait mener cela ?
Alors, d'un point de vue politique, on part sur une recomposition politique complète quasiment. Hein. Zelensky n'a pas de parti politique. Aujourd'hui, il y a un certain nombre de partis politiques quand même qui sont installés, y compris celui des plus anciens aujourd'hui presque, c'est quand même celui de Yulia Tymoshenko, qui va sans doute revenir dans la bataille des législatives.
Oui, troisième au premier
Est-ce
tour.
Est-ce que le président va dissoudre le Parlement ? Est-ce qu'il aura les moyens de le faire ? Ce n'est pas sûr du tout. Il a jusqu'au 27 mai pour pouvoir le faire. Sinon, les législatives auront lieu en novembre. Donc là, il y a déjà une grande incertitude. Il faut savoir que ce Parlement, il est composé de corps de députés. En tous les cas, les députés sont élus selon un scrutin mixte. Donc il va aussi qu'il va falloir trouver au niveau local des personnes pour le soutenir. Donc là, il y a une grande incertitude politique. On risque quand même d'avoir un Parlement où Zelensky n'est pas nécessairement une majorité de députés. Donc il va falloir créer des coalitions. On lui a déjà posé des questions. Il ne veut pas s'allier avec les députés de Porochenko. Il ne veut pas s'allier avec ce qu'on appelle le clan plutôt des pro-russes, en tous les cas de l'ancien président Yanukovych, de ses soutiens. Donc voilà, une recomposition politique à venir, et quelle marge de manœuvre va avoir Zelensky en tant que président pour gouverner, sachant qu'aujourd'hui il y a un Premier ministre avec lequel il va falloir qu'il compose pour quelques semaines, ou en tous les cas pour quelques mois, et son changement va être difficile. Concernant les accords de Minsk et le Donbass, là en quelque sorte, il peut relancer le processus de paix. D'ailleurs, lorsqu'il était venu voir Emmanuel Macron le même jour que Petro Porochenko récemment, les accords de Minsk ont été évoqués. Il doit y avoir une réunion prochainement, sachant que voilà, ce sont aujourd'hui les négociations patinent, parce que quand même, l'acteur principal dans cette histoire, c'est pas forcément l'Ukraine, mais c'est surtout la Russie. C'est quand même la Russie qui soutient les séparatistes dans l'est du pays. Et est-ce que la Russie va profiter de Zelensky pour éventuellement lâcher du lest et faire comprendre qu'il faut une réintégration de ces régions dans l'État ukrainien? Mais là encore, beaucoup d'incertitudes, sous quelles conditions, et là le processus pourrait prendre énormément de temps. Zelensky lui-même l'a reconnu.
Oui, avec comme premier geste potentiel un échange de prisonniers. Il a aussi été question de l'application d'une proposition de l'OSCE pour avoir des casques bleus dans le Donbass. En tout cas, on aura l'occasion d'en reparler, toute une nouvelle politique sans doute qui va se mettre en place. Merci beaucoup pour vos explications ce matin, Alexandra Goujon, maître de conférence à l'Université de Bourgogne et Sciences Po, et bien sûr spécialiste de l'Ukraine. Merci, bonne journée.
France Culture, l'esprit d'ouverture.
France Culture présente Le goût des sciences, le plus scientifique des prix littéraires, organisé par le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation. Cette année, le prix est décerné à « Du merveilleux caché dans le quotidien » d'Étienne Guyon, José Bicot, Étienne Ressa et Benoît Romano, aux éditions Flammarion, et HMS Beagle, aux origines de Darwin, de Fabien Grelot et Jérémy Royer, aux éditions d'Argo. Deux ouvrages à retrouver en librairie, à l'antenne, dans la méthode scientifique de Nicolas Martin et sur franceculture.fr. Un espace de création affranchi des codes, l'expérience. Aurélie Charron.
L'expérience lance son premier podcast original en 3 épisodes, Les enfants de Duras. Léa Capuano a retrouvé ceux qui avaient 6 ans en 1967 et qui avaient répondu aux questions de Marguerite Duras pour l'émission Comme il vous plaira sur France Culture. Un demi-siècle plus tard, ils se retrouvent dans leur école rue Saint-Benoît à Paris et re-répondent aux questions.
Est-ce que tu voudrais être grande ? Y a pas des choses comme ça qui t'étonnent ?
Les enfants de Duras, le premier podcast original de l'expérience, à télécharger sur franceculture.fr et les plateformes de podcast.
6h57 sur France Culture, l'heure des matins avec Guillaume Erner. Bonjour Guillaume.
Mais oui, bonjour Xavier Martinet, bonjour à toutes et à tous.
Et on en parlait, bien comme le montre l'Ukraine, il ne faut plus rire des humoristes.
Et oui, un humoriste élu en Ukraine, voilà quelque chose qui devrait nous faire réfléchir, Xavier. Et alors, pas élu n'importe comment, hein, vous l'avez dit, élu à 73% des voix, pas qu'un peu donc. Alors, ça fait quelque temps que les humoristes, et pas seulement en Ukraine, assument une fonction tribunicienne de Coluche à Zelensky, en passant par Dieudonné. Les humoristes sont désormais des politiciens à part entière. Ils assument une fonction centrale du politique, la critique et dégagisme aidant. Ils vont dans le sens de l'histoire du moment. Alors pour le reste, il n'est évidemment pas possible de faire des procès d'intention à Vladimir Zelensky, qui sera peut-être le meilleur président que l'Ukraine ait connu, ou pas. Mais il est possible en revanche d'en tirer une leçon, et pas seulement sur l'humour, les blagues ukrainiennes jusqu'ici n'ont pas été traduites, car Zelensky n'est pas seulement un humoriste adepte du dégagisme, doté d'un programme au contour flou. S'il n'était que cela, sa spécificité serait, comment dire, relative. Zelensky, c'est également une célébrité, et une célébrité médiatique. Il témoigne donc, après Donald Trump notamment, que celui qui bénéficie d'un fort capital médiatique possède aujourd'hui un vrai atout dans une élection.
Peu importe que cette notoriété ait été acquise en politique, en cuisine ou dans un téléfilm, cela représente désormais un véritable atout, un atout décisif. Et comme nous sommes modernes, c'est-à-dire digitaux, Xavier, cette notoriété peut s'acquérir sur Instagram en quelques semaines, là où il fallait jadis des années pour construire une star. Ça signifie qu'en matière politique, tout est désormais possible. Un héros de feuilleton incarnant un quidam devenu président peut devenir dans la vraie vie président, la réalité, la fiction se mêlant aujourd'hui de manière parfaitement intriquée, des éléments inédits qui contribuent à modifier profondément la politique. Alors la prochaine fois que vous verrez une star du stand-up ou une star faire la couverture de Voici, regardez-y à deux fois, vous contemplez peut-être votre futur chef de l'État.